Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieues sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans Le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. Comme tous les jeunes parents, j'ai provisoirement, si ce n'est définitivement, pris ma retraite de mes activités nocturnes de type festive. Alors certes, il m'arrive parfois de m'égayer dans des lieux de perdition avec mes petits camarades, mais la plupart du temps, assommé par la fatigue permanente qui accompagne la parentalité, je n'aspire la nuit tombée qu'à un peu de repos. Et quand bien même j'ai quitté le camp des fêtards, je ne crois pas pour autant avoir rejoint celui de leurs ennemis, ceux qui réclament un silence absolu passé 22h et ne veulent ni club, ni bar, ni salle de concert à moins d'un kilomètre à la ronde. Depuis plusieurs années déjà, on donne clairement les seconds vainqueurs. Et on annonce régulièrement la mort de la fête en ville. L'exemple le plus récent, c'est la menace qui pèse sur la Concrète, un club excessivement couru installé sur une péniche dans Paris, ouvert 24h sur 24 le week-end, et qui pourrait fermer ses portes à cause d'un conflit qui oppose les patrons de la Concrète à la société propriétaire de la péniche qui ne veut pas renouveler le bail pour officiellement opérer en urgence des travaux. Alors au-delà de ce dossier particulier, une question plus générale se pose. Est-ce que la fête est toujours la bienvenue en ville ? Comment les acteurs de la nuit imaginent l'avenir ? Quelles solutions circulent pour garder un peu de vie, même une fois les enfants couchés. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme B. Ces interrogations, je les ai d'abord soumises à quelqu'un qui les maîtrise bien. C'est Olivier Pellerin, il est journaliste, fin connaisseur des enjeux auxquels font face les nuits parisiennes, notamment puisqu'il avait, par exemple, été candidat il y a quelques années au poste de maire de la nuit à Paris, le représentant officiel des fêtards. Je lui ai donc demandé tout simplement s'il était encore possible de faire la fête en ville.
Si la question c'est est-ce que c'est de plus en plus difficile en termes d'immobilier et en termes de législation ?
Oui, c'est ça
c'est
la question.
C'est pas plus difficile, c'est autant difficile qu'avant. Avant, comme il y avait beaucoup moins de lieux et beaucoup moins d'événements, bah, ça ne se voyait pas. Mais oui, c'est très difficile, avec une exception française qui est la mainmise de la préfecture sur les histoires de nuisances sonores et donc les fermetures administratives. Ça, c'est quelque chose qui n'existe qu'en Europe et qui est une épée de Damoclès qui est sur la tête des lieux parce que pour peu qu'il y ait une plainte du voisinage, bah, ils peuvent être... Ou qu'il y ait des... débordements, hein, des vrais, ouais. En fait, qui est un problème de drogue ou des choses comme ça, ils peuvent avoir une fermeture administrative qui est un peu la double peine, parce que déjà, ils se payent des amendes, mais en plus, ils n'ont plus le droit de... on les prive de leur outil de travail, donc de leur chiffre d'affaires pour payer leurs salariés, etc., etc.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même une espèce de fatalité dans le sens où on a l'impression, alors peut-être que c'est un point de vue naïf, néophyte et que je ne fréquente pas assez les fêtes, moi j'avais la sensation que la fête était vouée à s'éloigner de plus en plus quand même des centres-villes. Alors peut-être que ça reste dans une zone urbaine, urbanisée, mais que c'est aller plus vers la périphérie plutôt que de se maintenir au centre.
Alors ça c'est la tendance et elle est valable en plus historiquement très chez les anglo-saxons et chez les allemands, par exemple, mais on n'a pas la même structure de territoire. Et nous, par exemple, si on prend l'ex-Berlin, qui était la ville vers laquelle tout le monde regardait pour la fête nocturne, les musiques électroniques, bah évidemment, ils avaient plein d'espace. Je dis « ils avaient » parce que c'est en train de changer chez eux aussi. Il y a beaucoup d'opérations immobilières qui font que les clubs ont des difficultés et eux aussi se retrouvent confrontés à ce genre de choses. À Paris, on a cette jolie barrière du périphérique sur laquelle les politiques planchent bien au-delà de la fête pour des histoires d'urbanisme, de société, etc. Mais pour la fête, on s'est bien connu, le Parisien a du mal à passer son périphérique et à aller dans la zone de la jungle, de là où on ne sait pas comment c'est pour faire la fête. C'est valable à Paris, c'est valable dans plein d'autres villes. On est très centralisé en France sur les centres-villes. Quand je prends par exemple ce que fait les Nuits Sonores à Lyon, ils font l'inverse, c'est-à-dire qu'ils utilisent toute la ville, ils vont réhabiliter des anciennes usines, etc. C'est événementiel, c'est pas facile à faire sur une base hebdomadaire qui est le calendrier des clubs. Et donc, si on prend l'Île-de-France, c'est très difficile de trouver des lieux. Et en plus, on se dit à l'extérieur, il y a moins de nuisances sonores, bah, de moins en moins, parce que l'agglomération parisienne est très peuplée. Et en banlieue, ils n'ont pas plus envie qu'à Paris d'avoir du bruit sous leurs fenêtres.
Est-ce qu'il y a du coup des choses à inventer pour mieux intégrer la fête dans la ville? Est-ce que c'est la ville qui doit changer ou est-ce que c'est la fête qui doit s'adapter?
Ben, je pense que c'est un peu les deux. En 2009, il y avait eu la pétition « Paris, ta nuit se meurt en silence » qui constate. Ben, c'était une autre époque. C'était une époque où, effectivement, déjà, il y avait beaucoup moins d'initiatives festives. Et du coup, c'était pas simple parce que c'était le règne du tout silence. Bon, d'un coup, tout s'est développé, tout le monde était content, ça faisait du bien au tourisme, etc., et à l'image de marque de la ville. Et puis, les riverains qui n'étaient pas contents sont de moins en moins contents et sont de plus en plus puissants sur la possibilité qu'ils ont de maintenir le silence et le calme dans leur quartier. Et du coup, cette pétition qui a amené les États généraux de la nuit et qui a donné lieu à un certain bras de fer entre les riverains et les fêtards, on va dire, pour résumer, elle sort du bras de fer et on se rend compte, les riverains sont toujours aussi vindicatifs, oui. Mais on se rend compte qu'il faudrait que chacun fasse un pas l'un vers l'autre. Que, évidemment, les fêtards, pas que les fêtards, les organisateurs, se débrouillent pour faire moins de bruit, c'est-à-dire pas en faire moins à l'intérieur, mais être mieux insonorisé, etc. Il y a des aides qui sont mises en place, notamment par le CNV, qui est le Centre National de la Variété, certaines ailes de la ville. C'est pas évident, hein, parce que ça coûte très cher d'insonoriser correctement un lieu. Et il faut aussi qu'une partie des riverains se rendent compte qu'ils sont dans des capitales internationales, donc très attractives. Par exemple, un riverain qui va passer 3 semaines à New York, il trouve ça sympa, les sirènes des voitures de police et tous les bruits qu'il y a partout. Ben, il faut qu'il se rende compte que les touristes ou les jeunes qui sont dans les centres-villes, c'est la même chose. C'est aussi ce qui nous fait vivre dans ces villes-là, c'est ce qui fait leur attractivité, leur chiffre d'affaires, le fait qu'à Paris, les taxes locales sont bien moins chères qu'en banlieue, c'est aussi parce qu'il y a une attractivité économique. Tout ça. Donc voilà, il y a une espèce de dialogue et de terrain d'entente à trouver, mais c'est pas simple, c'est très difficile. C'est un peu la quadrature du cercle, le casse-tête de toutes les mairies.
Est-ce qu'il est possible de l'organiser, ce dialogue? Ça a déjà été tenté de l'organiser?
Ah ben, ce qui a fait suite à cette pétition de 2009, les États généraux de la nuit, c'est le cas. Ça se passe à la mairie de Paris, il y a des représentants de tous les bords, ouais. Y compris des représentants des organisateurs de fêtes, mais des représentants des riverains. Et en général, ça se passe pas super bien. Le dialogue, il est plein d'acrimonie et souvent, ça atteint à des non-décisions, quoi. C'est-à-dire que tout le monde est contre l'idée de l'autre ou voilà. Mais ça peut, là, en ce moment, sur un tout autre type d'histoire, il y a la concrète, donc le fameux Krull-Lob qui a, on va dire, révolutionné la nuit parisienne parce que c'est à partir du moment où il a trouvé un format nocturne et diurne un peu différent que ça a tout chamboulé, qui a un gros problème avec son propriétaire, là, qui est menacé d'expulsion. C'est sur une péniche sur la Seine, et le propriétaire de la péniche le menace d'expulsion. Bon, il se trouve que tous les politiques apportent leur soutien, un soutien public, que ce soit la maire de Paris, Anne Hidalgo, le conseil de la ville. Et donc là, le conseil de la ville, à l'unanimité, vient de voter de soutenir et de mettre en place des mesures pour soutenir concrètes et son rapport avec son propriétaire, à l'unanimité de toutes les couleurs politiques de la ville de Paris. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une volonté de mettre en avant cette capitale festive de Paris. Après, oui, il faut trouver un terrain d'entente avec les riverains. C'est pas facile à Paris. Dès qu'un nouveau projet se monte en ce moment, à Paris, les riverains font d'abord part de leur inquiétude. Il faut prendre conscience que les centres-villes des grosses villes, pas que les capitales internationales d'ailleurs, c'est valable à Lyon, à Nantes, à Bordeaux, etc. Il y a des problèmes dans toutes ces villes, dans toutes les métropoles, que le centre-ville est aussi un centre d'activité culturelle et donc qui dépasse de temps en temps certains horaires. À l'inverse, effectivement, mais je crois qu'ils en ont conscience, les entrepreneurs de spectacles doivent être aussi garants d'un certain calme et confort des riverains aux abords de là. Voilà. Mais c'est pas facile, ça s'organise beaucoup au niveau municipal en fait. Oui. Au niveau municipal, qui est un niveau qui peut être parfois en... pas en conflit, mais en tout cas antagoniste avec le niveau préfectoral. Et Paris a un statut particulier qui est en train d'évoluer, mais la préfecture a la main plus que la mairie sur ces problèmes-là. Donc, de temps en temps, en ce moment, la mairie d'Anne Hidalgo soutient beaucoup ces initiatives culturelles et touristiques. Et à contrario, la préfecture de police a tendance à taper un peu dessus dès que ça déborde.
Est-ce que pour les villes aussi, l'enjeu, c'est de maintenir une forme de vie dans leur centre-ville, d'empêcher ce que beaucoup ont craint, notamment pour l'hypercentre de Paris, une forme de muséification quelque part, et de disparition des habitants, et donc disparition de la vie. Parce que finalement, quand on vide une ville de ses lieux de fête, de ses lieux de rencontre, on la vide aussi un peu de son attractivité pour les résidents déjà.
Bah oui, c'est le cas. Et au lieu de répondre sur Paris, je vais prendre un exemple de gens qui sont effectivement plus avancés que nous. Donc je reviens à Berlin. Ils étaient plus avancés que nous sur la fête, on les a rattrapés. Et ils sont déjà plus avancés que nous sur les problèmes de la préfète et des conflits immobiliers. Et donc à Berlin, il y a une initiative qui s'est développée qui s'appelle Creative Footprint, où ils mesurent ce qu'apporte un club, comme c'était beaucoup le cas à Berlin, dans un lieu un peu abandonné, une friche, où on en plante le club, on fait plein de bruit, ça embête personne parce que c'est des usines désaffectées, puis ça amène plein d'attractivités culturelles, donc plein de jeunes ménages qui s'installent, et puis un quartier où il y a des boutiques qui s'ouvrent, du coworking qui s'installe, et puis petit à petit, ceux qui s'étaient installés là et qui ont fait des enfants, bah, ils se mettent à porter plainte contre le club, et ils veulent que le club ferme. Donc eux, ils ont réussi à mesurer ce qu'apporte un club dans une friche, et comme activité économique, culturelle, emploi, etc., et donc à le protéger en disant, c'est le club qui a amené ça aussi, donc il faut continuer à l'intégrer dans le quartier, même s'il s'est développé de telle sorte qu'aujourd'hui, le club gêne un peu. Voilà, donc ils arrivent à mesurer l'empreinte créative et donc générative de côté positif d'un point de vue urbain pour faire en sorte de, justement, de trouver un juste milieu entre confort des habitants et attractivité culturelle, artistique, touristique et donc économique. Nous, on n'en est pas encore là, parce que de toute façon, nous, on n'avait pas à disposition des friches un peu partout. On est déjà sur des urbanismes très concentrés en France, et spécifiquement en Île-de-France et à Paris. Paris, et c'est surprenant, c'est une des villes au monde qui a la plus forte densité de population au mètre carré. Du coup, on n'a pas beaucoup de place pour essayer de faire du bruit sans gêner les voisins. Mais par contre, on pourrait prendre exemple sur ce Creative Footprint allemand, et d'ailleurs qui a une antenne aussi à Hong Kong et à New York, et qui mesure ça. On peut mesurer ce qu'apportent ces centres culturels comme activité économique dans les villes, et donc au final, même s'il y a des nuisances sonores à essayer d'atténuer, comme bien-être aussi pour tout le monde, in fine. Quoi.
À Berlin. On en revient souvent finalement à Berlin. Parce que oui, évidemment, on a eu envie d'élargir la question de la fête en ville au-delà des frontières franciliennes, parce qu'elle se pose partout. J'en ai par exemple causé avec l'équipe du Darwin à Bordeaux, un vaste lieu de création et d'animation où les responsables discutent activement avec les riverains et les pouvoirs publics afin de trouver une cohabitation qui profite à tous. Mais comme dans un coin de notre tête, l'exemple berlinois ne cessait de revenir, il a quand même bien fallu s'y pencher. Ça tombe bien, j'ai dans mon cercle d'amis quelqu'un de tout à fait compétent sur le sujet, mon ami Perrine, qui est DJ, connu sous le pseudo de La Fraîcheur, et c'est une figure montante de la scène techno, et elle est surtout berlinoise d'adoption depuis 8 ans. J'ai donc profité d'un de ses passages à Paris pour lui coller un micro sous le nez et lui demander si là-bas aussi, au sein de ce qui nous paraît à nous, petits Français, un îlot préservé pour la fête, les choses avaient changé.
Berlin a énormément changé ces 8 dernières années, pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que d'un côté, c'est bien, la scène s'est professionnalisée, ce qui permet aussi à plus de gens d'en vivre vraiment de manière professionnelle. Le problème de ça, c'est que ça veut dire qu'encore une fois, c'est pareil, tu prends moins de risques, t'es un peu moins fou, t'as moins de liberté. Tous les clubs qui ont commencé, par exemple le Ville de Renate, il y a 10 ans, il y a 12 ans, c'était un squat. Bon, maintenant, c'est plus un squat, maintenant, ils payent un loyer, donc c'est compliqué. La scène a énormément changé. Je pense que là, pour parler encore de la fête en ville, l'exemple qu'il faut prendre de Berlin, c'est ce rapport aux politiques. Parce que je suis pas pour le fait de cette idée qu'il faut exporter la formule berlinoise partout, comme on voit, des soirées ou des collectifs qui disent on fait des soirées à la Berlin, à Nantes, à Santiago du Chili ou à Los Angeles. C'est ridicule. Berlin est né de ses spécificités historiques et économiques, et donc essayer de reproduire ce modèle-là ailleurs, c'est ridicule. Ça veut dire écraser les spécificités locales d'où tu viens. Alors que pour moi, la scène et la fête, c'est quelque chose de vraiment naturel et intrinsèque qui vient à tout le monde. Donc n'importe qui, peu importe si tu viens. Je veux dire, je suis sûre que tu pourrais créer une scène à Laval qui soit typique de Laval en fonction des besoins et des nécessités de Laval. Donc ça ne servira à rien de vouloir importer une formule. Par contre, Berlin ayant compris très tôt qu'une bonne partie de son économie, de sa culture et de son identité étaient liées au club, ils se sont aussi, et voyant le changement... tout le monde parle de la gentrification, qui est un mouvement mondial, mais la gentrification à Berlin, elle est arrivée en 5 ans, ce que les autres villes voient en 25-30 ans. Donc quand les clubs ont vu ça arriver, ils sont vite mis ensemble. Ils ont créé un truc qui s'appelle Club Commission, qui est donc une organisation qui représente les clubs de Berlin, qui est un porte-parole, qui est en constante communication avec les politiques. Et ça, c'est ça qui sauve une partie de la scène. Et c'est pas une solution miracle, hein, parce que la ville est encore en train d'essayer de construire une autoroute en plein milieu du centre-ville. Une bêtise urbanistique des années 70 que tu as du mal à comprendre quand 50 ans plus tard ça existe encore, mais de fait qu'il y a plein de clubs qui sont sur le chemin de cette autoroute, qui vont donc devoir disparaître dans les 2 ans qui viennent. Ce rapport aux politiques, ça ne veut pas dire qu'on les a dans la poche, mais ça veut dire qu'au moins, quand il s'agit d'être écouté, on nous écoute. Parce qu'il y a ce représentant qui représente les 230-240 clubs qu'il y a à Berlin. Alors certes, toutes les villes n'ont pas 240 clubs, mais même s'il y en a 20, je pense que ça doit être un truc comme ça à Paris, j'imagine une vingtaine, une trentaine, il faut qu'ils puissent parler d'une seule voix s'ils veulent être pris au sérieux par les politiques pour comprendre que c'est pas que les problèmes que les clubs vivent, c'est pas des problèmes spécifiques, genre moi j'ai des problèmes de voisinage, oui mais un autre club on n'aura pas. Non, le problème de voisinage, c'est un problème pour tout le monde. Les problèmes de violence à la porte ou des violences à l'intérieur contre les personnes racisées, les personnes queer ou les femmes, c'est un problème que tous les clubs rencontrent, pour lesquels il y en a besoin d'un soutien. Les problèmes de pression financière de l'immobilier est un problème que tout le monde... Donc, il faut pouvoir faire comprendre aux politiques que, de la même manière que n'importe quel commerce ou n'importe quel élément... centre culturel, parce que le club c'est ça, c'est à l'intersection du commerce et de la culture, mais que n'importe quel musée pourrait avoir un rendez-vous avec le maire pour discuter ou la maire pour discuter de ces problématiques, n'importe quel chambre de commerce et association des bouchers de France pourrait avoir un rendez-vous s'il y avait une problématique, mais les clubs non. Et ça c'est pas normal, ça c'est ça qu'il faut qu'on change.
Est-ce qu'il n'y a pas un écueil dans cette potentialité d'organisation, c'est le fait de faire perdre à ce monde nocturne un peu de sa spontanéité, quelque part? Ou alors est-ce que c'est un énorme cliché que je suis en train de te sortir?
Je pense que tu ne peux pas gagner partout et qu'au bout d'un moment, il faut savoir choisir ses batailles, ses combats et savoir ce que tu veux sauver. Je veux dire, les free parties, les raves, ça existe toujours, hein. Il y a encore eu la free party du 1er mai sur le plateau de Mille Vaches. Je sais pas combien ils étaient, plusieurs milliers, mais enfin, avoir de l'autre côté, je veux dire, le Rex Club ultra institutionnalisé, ultra classique, ça les empêche pas, les free parties, les toughers d'aller au plateau de Mille Vaches. Donc, tu auras peu importe à quel point tu essayes d'encadrer les choses, tu auras toujours une zone de liberté. Et peut-être même que ça créera une autre zone de liberté par réaction, parce qu'on sait aussi très bien que plus tu enfermes quelque chose, ou plus tu le légalises, ou plus tu le définis, et plus tu vas avoir une nouvelle génération qui va vouloir se détacher de ça, et que ça va créer un nouveau mouvement. Donc moi, j'ai pas peur. Ce qui m'embête, moi, c'est plus que la légalisation ou la professionnalisation, c'est la commodification de la fête et de la techno ou de la musique électronique. C'est-à-dire de ne pas réaliser, quand on est danseur, qu'on a cet espace d'oubli. Deux, quand on est DJ, qu'on a quand même une chance de fou de vivre de notre passion. Et donc, au bout d'un moment, il faut juste réaliser que cet espace de liberté, si toi t'es prêt à y donner quelque chose, il existera toujours. Si tu vas danser en mode tout ceci m'est dû, et si tu vas mixer en mode tout ceci m'est dû, alors là, mais une zone de liberté ou une zone organisée, ça ne changera rien. C'est que tu es venu pour prendre et rien donner. Mais si tu vois le moment de la fête et le lieu de la fête comme un espace qui a un sens social et sociologique, et que tu participes de ce mouvement et de ce cycle bienfaisant, bah alors dans ce cas-là, tu trouveras toujours quelque chose à y apporter, et comment le bouger, comment faire bouger les lignes, comment le rendre peut-être un petit peu moins prévisible, etc. Pour moi, il y a toujours de l'espace. C'est juste une question, est-ce que tu as envie de toi de le faire, ou est-ce que tu as envie d'en profiter et de râler quand les choses prennent pas le chemin que tu as envie que ça prenne.
Toi, de par ton boulot de DJ, tu es amené à voyager un peu partout dans le monde, un peu partout en Europe, un peu partout dans le monde, et à jouer un peu partout. Tu vois des villes qui sont confrontées un peu toutes aux mêmes problématiques, ou est-ce qu'il y a encore des endroits qui échappent à justement ces difficultés qu'on a pu évoquer là rapidement, toi et moi ?
Non, honnêtement, toutes les villes et tous les pays sont confrontés avec des problématiques. La problématique est la même, mais les éléments sont différents. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, aux États-Unis, c'est le fait qu'à partir de 2 heures, on n'ait plus le droit de vendre d'alcool. Je sais pas si quand je vais jouer à Valparaiso, le problème c'est qu'à une certaine heure, les rues deviennent dangereuses. Et puis c'est la police corrompue qui fait que si tu fais des soirées dans des warehouses, t'es sûr qu'à un moment ou un autre, t'as les flics qui vont débarquer et qu'il va falloir de filer du cash. Donc t'as plein, la problématique de survie du club est la même, mais les éléments sont différents. Je pense qu'au contraire, la dernière, la licorne qui restait, c'était Berlin, qui est en train de s'institutionnaliser. Donc non, je pense que, enfin en tout cas de mon expérience, j'ai pas vu ça. Les autres choses que tu peux voir, ça peut être des expériences comme Burning Man par exemple. Et même ça, je veux dire, Burning Man est censé être un événement ultra hippie qui ne génère pas d'argent, qui n'est pas un commerce, puisque tout l'argent que tu dépenses dans ton ticket, c'est juste pour payer la sécurité, les rangers, les paramédics. Qu'aucun des DJ n'est vraiment payé, que tous les chars et les scènes sont autofinancés par le crew, le collectif qui les met en place et qui a invité DJ. Donc, et malgré ça, c'est de plus en plus envahi par tous les techies de WhatsApp et de Uber qui habitent à San Francisco et qui arrivent avec leurs billets et leur tente sponsorisée par, je sais pas moi, Smirnoff. Et tu dis, c'est pas ça l'idée. Donc, je pense que même Berlin, Burning Man ou d'autres exemples où on va dire que la danse, la musique électronique et la fête étaient un mode de vie ou un moyen de rébellion ou vraiment quelque chose de valorisé en dehors du système mercantile, même si ces espaces-là sont récupérés, mais je pense que ça c'est le mouvement capitaliste, late stage, excuse-moi, je fais ma Jean-Claude Van Damme, là on est dans l'étape finale du capitalisme le plus brutal. Ça touche tous les pays, toutes les sphères de la société, toutes les zones commerciales ou d'activité. Donc non, je crois que malheureusement, ça, c'est quelque chose qu'on vit tous.
Il va donc falloir s'organiser pour ne pas laisser la fête être grignotée et pour que nos gamins puissent encore avoir à portée de main des lieux où aller guincher dans notre dos, parce que oui, on va pas se mentir, on sait tous très bien que ça va finir par arriver. Merci à Olivier Pellerin et à La Fraîcheur pour leur réponse. D'ailleurs, puisqu'on parle d'elle, je ne peux que trop vous conseiller son dernier EP, Weltschmerz, qui est sorti tout récemment sur l'excellent label Infine. Pour ce qui nous concerne, programmé, vous le savez, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler, et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.